EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Maturité, oui, le Seigneur est en train de faire ce travail-là. Il nous fait grandir tous les jours par sa parole pour qu'on devienne des véritables disciples comme Jésus-Christ. On a commencé cette semaine avec un sujet assez particulier parce qu'il s'agit de faire de nous des intendants, des gestionnaires, des ressources que Dieu a données entre nos mains. On a parlé de la ressource financière, on a parlé de notre potentiel, on a parlé du temps, on a parlé des relations. Et aujourd'hui, on aimerait parler d'une ressource pas moindre, notre corps. Oui, ça, le corps. On s'en plaint beaucoup. Ah, oh, il n'a pas fonctionné comme on a voulu. Ah, oh, il a vieilli plus qu'on pouvait l'imaginer. Mais Dieu nous a donné ce corps à dessein. Sans ce corps, vous n'êtes pas utile ici sur la terre. Pourquoi Dieu vous a donné un corps qu'il appelle lui-même le temple du Saint-Esprit? Et il dit, celui qui détruit ce corps-là, lui aussi le détruira. Ça devrait être sérieux, l'histoire du corps. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Au bout de cette leçon d'aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience de sa responsabilité personnelle en tant que disciple de Jésus de prendre soin de son corps. Vous savez, on aime prendre soin nous-mêmes de nos finances. On aime prendre soin nous-mêmes de nos relations. Mais quand il y a une histoire de corps, on s'est dit, dans tous les cas, c'est le Seigneur. Si le Seigneur veut que tu meurs, tu meurs. Si le Seigneur veut que tu vives, tu vives. On peut tout faire pour prendre soin de notre corps, mais en fin de compte, c'est Dieu qui décide. C'est pas juste de réfléchir comme ça. Vous pensez qu'en fin de compte, votre argent, c'est vous qui en décidez. En fin de compte, votre temps, c'est vous qui en décidez. Mais votre corps dans lequel vous êtes, pour lequel on vous appelle vous par votre prénom, c'est là que Dieu doit décider à votre place. C'est vous qui mangez. C'est vous qui vous prélassez sur votre divan à regarder la télé jusque tard. C'est vous qui prenez des nourritures acidiques à 23 heures avant de dormir. Et c'est Dieu qui décide si vous mourrez? Franchement, ce n'est pas sincère. C'est vous qui faites les causes et c'est Dieu qui décide de l'effet générique, l'effet général, l'effet final. C'est-à-dire, vous faites tout ce que vous voulez, dans tous les cas, c'est Dieu qui décidera si vous vivez ou non. Contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, les êtres humains ne meurent pas que par volonté de Dieu ou attaque du diable. Un être humain meurt aussi par ses erreurs personnelles. C'est-à-dire, toi-même, tu as fait le fou. Beaucoup de gens sont morts, pas parce que le Seigneur est allé leur prendre la vie. Mais les permissions de Dieu sont telles que ses principes sont là. Sa volonté est claire. Si aujourd'hui tu veux tenter, tu veux mourir, il y a plusieurs façons de le faire. Fais-toi tamponner, je sais pas moi, fais-toi écraser par un train. Tu verras si Dieu le veut ou pas. Pourquoi tu tenterais pas de toucher à l'électricité, de voir si Dieu veut que tu sois choqué ou non? Allez, pourquoi je parle comme ça? Je vais juste éveiller notre attention quelquefois. Comment notre réflexion, deux fois, arrive à un degré d'absurdité? Juste parce que on ne veut pas fournir l'effort que demande le corps dans son entretien. L'effort à se mettre un peu de poudre. L'effort à s'habiller en veste. Ça, c'est bien. Mais l'effort à perdre du poids, faire des marches, maintenir sa bonne tension artérielle, ces types d'efforts-là, on dit non, ça dans tout le cas de Dieu, s'il décide que tu vives, tu vivras. Frères, soyons sincères avec notre corps, soyons sincères avec Dieu, avec la parole de Dieu, soyons sincères avec notre responsabilité sur notre corps. Nous avons une responsabilité, il faut la prendre pleinement. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec nous, c'est de placer en cette fin de semaine, comme on est en train de le faire depuis le début, des principes qui vont construire une mentalité, qui vont construire un paradigme, qui vont construire une façon de réfléchir lorsqu'il s'agit de notre corps, lorsqu'il s'agit de prendre soin de notre corps en tant qu'une ressource que Dieu nous a donnée. Vous êtes presque... Je pense que si vous avez déjà suivi cette série, vous savez déjà quel va être mon premier point. Alors, premier point. Reconnais que Dieu accorde de l'importance à ton corps. À chaque fois, le premier point, j'essaie de rallier le fait que ce que nous avons comme ressource est un don de Dieu. Alors, reconnais que Dieu accorde de l'importance en ton corps. Frères et sœurs, il est certes vrai que la philosophie gréco-romaine a eu tendance à séparer la matière et l'esprit, à donner l'impression que la matière était mauvaise, sale et suée, et que l'esprit était excellent et divin. Et on a adopté malheureusement cette façon de réfléchir qui n'est pas biblique, qui n'est pas divine. Dieu ne considère pas que le corps est sale et inutile et qu'il n'en a pas besoin. Non, Dieu, en voulant placer l'homme sur la terre, c'est lui qui forma la poussière. Dieu, la Bible dit « Dieu, faisant l'homme à notre image ». Le reste de fois, Dieu parle. Au moment de faire l'homme, la Bible dit, le terme qui est là, c'est « sculpter ». Dieu sculpta la terre pour faire l'homme. Faisons une imagination anthropomorphique. Imaginons Dieu avec les mains et les bras et les jambes comme un être humain. C'est comme si, depuis qu'il a commencé à travailler, il parle. Et pour la première fois, pendant la création, il s'est dit, on va salir les mains un peu parce qu'on va faire quand même une œuvre d'art. Donc, la Bible dit, l'Éternel sculpta l'homme. L'homme est un chef-d'œuvre divin. Et quand je parle de l'homme, je ne parle pas que de l'esprit, mais de ce corps dans lequel nous a placés. Ce corps est devenu l'instrument par lequel nous vivons dans ce milieu et nous atteignons les objectifs divins. Si important que Jésus-Christ pour mourir pour nous. Jésus n'est pas mort spirituellement pour nous, c'est impossible, il est Dieu. Jésus n'est pas venu mourir son esprit pour nous. Mais c'est le corps de Jésus à la mort, à la croix, qui nous a donné la vie spirituelle et éternelle. Dois-je répéter ça? Oui. Le corps, le sang de Dieu fait chair, l'élément physique sanguin, le corps dans lequel il a vécu, qu'il a développé pendant 33 ans. Dieu, pour sauver l'humanité du péché, de quelque chose d'immatériel, d'incorporel, qui est dans la conscience, dans les états d'esprit, pour nous sauver de ça, il a matérialisé sa personne à travers un corps. Le corps a porté la sainteté d'esprit jusqu'à ce que le corps soit capable de verser un sang par innocence. Et il est capable de prendre ce sang comme un sacrifice, un acte sacerdotal qui va pas couvrir les péchés, mais pardonner les péchés des êtres humains. Oh, mes amis, si le corps était aussi inutile comme ça, ça se passerait pas ainsi. Regardez cette formule du salut de l'humanité. Impossible de le faire sans le corps. Le corps n'est pas une chose que Dieu s'est dit... prenons le corps. Non, le corps est planifié, prévu. Si bien que Paul explique en disant que quand Jésus-Christ va revenir, quand nous serons pris dans les airs, nous aurons un autre corps. Il n'a pas dit que le corps n'existe plus, Dieu n'en a pas besoin. La Bible dit que notre corps sera changé. Ton corps est très important pour Dieu. Il n'est pas seulement important pour toi, pour la photo, et puis on va bouger ça sur Photoshop. Hein. C'est pas seulement pour les tenues, les habits, et manger, et boire, et les sports, et les amis pour te voir. Non, ton corps est important pour Dieu aussi. Quand Dieu te regarde, quand Dieu projette ton avenir, il tient compte du fait que tu es dans cette enveloppe charnelle. Il en connaît les limites, il en connaît les compétences, il connaît les secrets d'une meilleure gestion. Si tu sais qu'il faut prier, il faut faire ceci comme exercice spirituel pour se maintenir en bonne santé spirituelle, sache qu'il existe des exercices physiques pour ça aussi. Et Dieu en a donné l'instruction. Regardons, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Intéressant. Il aurait pu dire, glorifiez seulement Dieu dans votre esprit, alléluia. Il dit, non, même vos corps là. Intéressant de savoir que ce que la Bible appelle le temple du Saint-Esprit, c'est le corps. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Le sens de la propriété et de l'appropriation de nos vies pour que Dieu devienne le propriétaire de nous et de pouvoir prendre notre corps pour lui. De sorte que ce corps dans lequel tu es ne t'appartient plus. Paul dit, c'est plus moi qui vis. Est-ce que Jésus peut vivre dans ton corps? dans cet état-là, le corps que tu as peut-il permettre à Jésus d'atteindre ses buts? Jésus peut vraiment être efficace avec ton corps. Parce que ton corps lui appartient en fait. Hein? Ton corps et ton esprit lui appartiennent. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps. On ne parle pas d'argent ici. Pasteur, vous parlez, vous les églises parlez beaucoup d'offrandes, de donner de l'argent. Non, mon ami, on n'est pas dans l'offrande de l'argent ici. Ça, on comprend que tu n'en as pas et on comprend que tu ne veux pas donner. On comprend que, voilà, c'est ton argent, fais-en, le Seigneur te convaincra autant voulu. Mais ton corps alors, si tu n'as pas de billets de banque ou des biens à aider par générosité, à donner aux autres, et tu te rends compte que tu n'as pas été utile entre les mains du Seigneur, Dieu dit que ton corps avec lequel tu t'es réveillé le matin, que tu vas aller coucher le soir, ce corps-là, même sans argent, est une offrande. De quelle qualité est ton offrande? Quand tu offres ton corps, il est de quelle qualité? Psaume chapitre 139, le verset 13 à 15. Psaume 139, verset 13 à 15. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Le psalmiste est en train de rendre grâce à Dieu de ce qu'il le connaît depuis l'entraille de sa mère et les entrailles de sa mère. Et j'aime ce qu'il est en train de dire ici. Il dit que c'est toi qui m'as tissé. C'est-à-dire, le psalmiste dit, même quand je suis, Dieu n'a pas seulement formé Adam dans le jardin d'Éden, parce que c'est le premier homme, alors Dieu lui-même s'en est occupé. Après, les restes, il s'en occupe plus. Non, le psalmiste montre que pendant que les tissus se forment dans le ventre de la femme, Dieu est en train de tisser l'être humain. Comme ceux qui ont, vous savez, ils ont les aiguilles, ils sont en train de tisser, de tricoter. Dieu est en train de tisser comme ça l'être humain. Et il tisse quoi? Son corps. Ton corps n'est donc pas à l'extérieur de l'équation. Dieu t'a appelé, Dieu t'aime, Dieu te sauve, corps, âme et esprit. Deuxième vérité à savoir, important, lorsqu'on veut savoir comment faire bon usage de son corps et d'y prendre soin, souvenez-vous, je ne tente pas de vous donner des astuces, mange le matin, sors le soir, non. Je veux d'abord placer une mentalité, un paradigme, une façon de réfléchir sur le bien-être de notre corps. Deuxième point, le secret de la bonne santé est dans l'assiette, le mouvement et le repos. Regardez-les très bien. Le secret de la bonne santé est dans l'assiette, le mouvement et le repos. Ça signifie quoi? Dieu nous veut en bonne santé. Ça, vous devez savoir. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous guérir. Le but de Dieu, c'est qu'on ne tombe pas malade. La guérison est une façon de maintenir ses buts. Puis-je répéter ça? Oui, je pense que oui. Le but de Dieu est notre bonne santé et non pas notre guérison. La guérison est le moyen de nous redonner notre bonne santé. Alors, la guérison vient pour nous redonner, restaurer, rétablir ce qui a été donné d'avance. Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas qu'il manifeste qu'il est le Dieu qui te guérit quand tu tombes malade. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il te donne des instructions que tu respectes pour rester en bonne santé pour toujours. C'est pourquoi il donne des instructions très médicales au peuple d'Israël, dit « mangez pas ci, mangez pas ça ». Pourquoi? Parce que la bonne santé est d'abord dans l'assiette. La grande partie des maladies dont nous souffrons vient des choses que nous consommons. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, c'est l'association de ces choses-là dans notre corps, la vitesse ou la lenteur de leur synthétisation à l'intérieur, de leur dégradation, de leur digestion, ce sont ces choses-là qui font que si ça passe trop de temps, ça devient un problème après pour notre santé qui ne sait plus les intégrer. Souvent, Vous devez prendre conscience que chaque fois que vous prenez l'assiette, il est possible que vous êtes en train de consommer votre prochaine maladie. Chaque fois que vous prenez une tasse, il est possible que vous êtes en train d'avaler votre prochaine souffrance. Pas parce que tout ce que nous mangeons est toxique, ainsi de suite. Non, parce que le corps humain a un processus de fonctionnement. C'est pas parce qu'une chose est mangeable que ton corps, à cette heure-là, à cet âge-là, à ce rythme-là de la vie, en a besoin. Ta santé est dans ton assiette. Montre-moi ce que tu manges, je te dirai combien d'années tu vas encore rester sur la terre. Non, pasteur, si ce n'était que ça, les plus riches vivraient plus longtemps. Qui t'a dit que quand quelqu'un a plus d'argent, il mange bien? Non. La bonne façon de manger, les bonnes nourritures sur à table, ça demande juste de la rigueur. Des fois, croyez-le ou non, le pauvre est des fois plus proche de la bonne nourriture quand elle est riche. Il est plus proche du bio quand elle est riche. Du reste, c'est lui qui, au champ, produit les légumes que les riches vont acheter bio dans un magasin, dans une boutique bio où les choses coûtent très plus cher. Mais le champ où cela est fait, il n'est pas fait directement nécessairement par un riche. Le secret de la longévité est dans l'assiette. Dieu vient de faire sortir un peuple d'Égypte et il veut le maintenir longtemps. Et parmi les instructions qu'il leur donne, c'est pas seulement chercher ma face. Il leur dit les gens de choses à ne pas manger. Mangez pas ci, mangez pas ça. Quand vous faites une étude bien approfondie des choses qui sont devenues l'alimentation des Juifs aujourd'hui, l'alimentation cochère, vous rendrez compte que ces choses-là, chacune des choses que Dieu a refusé au peuple d'Israël de manger, c'était plus que rituel. Dieu était un nutritionniste du peuple. Un peuple vivant dans le désert, sans frigo, sans congélateur, dont le seul moyen de pouvoir conserver la nourriture était de placer du sel. Avec la quantité de sel très limitée vivant dans le désert, les instructions que Dieu leur a données sur des choses à manger, à ne pas manger, un peuple qui vit comme ça en communauté, avec des degrés de propagation de maladies très fortes, où la contagion est rapide. Il était leur médecin. Il était tout pour eux. Et ces instructions n'étaient pas seulement pour plaire à Dieu. Ça donnait l'impression de « fais-le pour rester sain au milieu de ton peuple et que l'Éternel… » Quand Dieu disait « quelqu'un a telle maladie, il ne peut pas rentrer au milieu de nous, de vous, mettez-les de côté ». C'était bien avant le COVID. Mettre quelqu'un en quarantaine parce qu'il a des types de maladies qui contaminent les autres. Ces instructions n'étaient pas d'abord d'ordre spirituel, ils étaient d'ordre sanitaire. La bonne santé est dans l'assiette, mais aussi dans le mouvement. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, c'est comment tu fais fonctionner ce corps. Où tu vas, combien de tours tu fais, comment tu brûles ce que tu consommes? Et troisièmement, comment tu te reposes? Parce que le corps est une forme de machine qui a besoin de son petit moment de repos pour redémarrer après. Proverbes chapitre 23, versets 19 à 21. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs des vins, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des élans. Il leur dit, faites attention, il veut catégoriser des mauvaises personnes, mais d'après leur assiette et d'après leur table, ce qu'ils boivent, ce qu'ils consomment. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Vous connaissez pas ça, je suis sûr. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. La Bible ici n'est pas en train d'annuler l'exercice physique. La Bible dit plutôt que l'exercice physique a son utilité, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Le jeu de mots qu'il y a là-bas en grec, c'est comme s'il disait l'entraînement physique est utile pour peu de choses, mais l'entraînement de la foi est utile pour tout. Paul n'est pas en train de régner la place de l'exercice physique. Il est en train de dire que c'est bon, c'est utile pour sa catégorie des choses. La piété, c'est toute catégorie, mais l'exercice physique est utile. Marc, chapitre 6, verset 31. Alors, il leur dit, « Venez à moi, venez avec moi, nous allons nous retirer dans un endroit isolé pour être tranquille. Il faut prendre un peu de repos. » Il y avait effectivement tant de visiteurs et tant de va-et-vient qui n'arrivaient même pas, qui n'avaient même pas le temps de manger. Jésus dit, je connais les règles de la bonne santé. Ces gens, je venais de les envoyer, ils ont chassé des démons, ils sont fatigués. Ils sont revenus, on doit les garder en bonne santé. Et il y a deux options. Leur donner le repas pour qu'ils récupèrent des forces et leur donner de se reposer. Là, on a mis le repas, ils n'arrivent même pas à manger. Donc, il faut qu'on les mette dans des conditions où ils mangent en se reposant. S'ils n'arrivent pas à manger ici, il faut que je les sorte de là, qu'ils aillent se reposer. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien, qui a envoyé ses disciples, les a rappelés à la maison. La maison devenant trop occupée, les a ramenés à un lieu désert pour se reposer. Daniel chapitre 1, versets 12 à 15. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui de jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu rageras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Et leur accorda ce qu'ils demandaient et les épouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'empoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Oh, incroyable! Quelqu'un se met au régime royal et il est en mauvaise santé. Incroyable, hein? On a toujours pensé que la table du riche, c'est la meilleure table à partager. Mais on a mis des jeunes gens au régime royal. Après 10 jours, des jeunes hébreux ont gardé la bonne façon de manger qu'ils ont appris dans leur famille, qu'ils ont appris dans les lois de l'Éternel. Les deux à la fin. Les jeunes gens qui ont mangé au rythme royal, c'est-à-dire ne manquent. Vous pouvez imaginer les rois de l'époque devant leur table. C'est pas des morceaux. C'est-à-dire, c'est tout un sanglier qu'on place là-bas. Le roi, il s'est dit, il veut qu'il mange comme lui, qu'il ait le rythme de manger comme lui. Les gens ont mangé royalement et sont en mauvaise santé. Et ceux qui ont mangé presque comme des pauvres sont en meilleure santé. Ta bonne santé, prendre soin de toi, commence par ce que tu vas mettre dans ta bouche. C'est l'assiette, mais c'est le mouvement, la vie. C'est Dieu qui donne le mouvement et l'être. Bouge, mange, mais bouge. Prie, mais bouge. Fais même les 100 pas pendant que tu pries. Il t'est devenu même difficile de t'agenouiller pendant longtemps dans la prière. C'est-à-dire, le diable me combat. Moi, j'aime beaucoup rester à genoux dans la prière. C'est pas le diable qui te combat, ce sont tes muscles, ce sont tes os, le fait que tu les utilises pas, tu les bouges plus, c'est devenu difficile, ça te fait mal pour n'importe quoi. Tu n'es pas aussi vieux ni aussi vieille que tu le penses. Tu n'aimes plus bouger. Ah, mais pasteur, j'ai entendu ce que tu dis, mais moi, je bougerai où? Mon travail, je viens d'ici, je vais là-bas. Fais quand même quelques pas. Tu peux changer ton point où tu vas prendre le Uber. Fais quand même quelque part, aller les chercher là-bas, pas seulement à la sortie de l'endroit où tu travailles. Bouge, fais quelque chose. Ah, mais pasteur, j'ai pas le temps, je m'occupe des enfants et tout. Alors, l'un des sports préférés des femmes, moi j'ai découvert, ça fait partie, c'est un cliché, hein, vous ne prenez pas ça mal. Mais j'ai découvert que l'un des sports préférés des femmes, c'est un sport olympique spécial qui s'appelle faire les courses. Ça s'appelle faire les courses. C'est-à-dire, on fait le magasin, on tourne par-ci, par-là. C'est bien, fais-le. Même si tu ne vas rien acheter, le fait de te tenir debout, de marcher là-bas, d'aller par-ci, de tourner, c'est bien, bouge. L'un des signes forts de la vie, c'est le mouvement. Bouge, bouge, mais aussi, repose-toi. Enfin, pour terminer, l'un des principes que j'aimerais que chacun de nous ait en tête en matière de prendre soin de son corps et de bien gérer cette ressource, c'est celui-ci. N'oublie pas que l'état de ton corps est connecté à ton âme et à ton esprit. Ce corps, il ne s'agit pas seulement de manger et de boire, il ne s'agit pas seulement de bouger, il ne s'agit pas seulement de reconnaître que le corps est important et c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais notre corps est connecté à notre âme et notre corps est connecté à notre esprit. Quand quelqu'un ne va pas bien dans son esprit, son corps va répondre. Quand quelqu'un ne va pas bien dans ses émotions, dans son âme, son corps va répondre. N'est-ce pas que le corps fait jaillir des larmes pendant que ta douleur est à l'intérieur? On n'a pas cogné le corps. Dis, mais c'est qu'il m'a fait vraiment, je dirais, je n'en rien pas. Tu pleures, ton corps réagit d'un sentiment qui est à l'intérieur. Tu es en plein adoration, alléluia, Dieu, Seigneur, tu es merveilleux. Tu voilà, tu pleures, personne ne t'a rien dit, mais ton corps, directement là, par terre, tu t'agenouilles. Pourquoi ton corps réagit pendant que l'activité est spirituelle? Le corps est directement rattaché à l'âme et à l'esprit. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il montre qu'il y a un lien. Il dit, mon souhait en moi, c'est que ta bonne santé ressemble à ta bonne santé physique ressemble à ta bonne santé mentale et psychologique et spirituelle. Proverbe 16, verset 24, la Bible dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Dans une conversation, les choses que tu entends, des bonnes paroles, nourrissent non seulement ton âme, même ton corps. C'est-à-dire que dans une conversation, tu peux parler à quelqu'un et lui dire tellement de mauvaises paroles que ça l'alourdit même physiquement. Quelqu'un qui voulait même sortir s'est dit, je ne sors plus, j'ai même plus envie. Ça m'a dégoûté. On peut bombarder quelqu'un des mauvaises paroles et le voilà, il est là, il ne fait plus rien, il ne bouge plus. L'état de ton esprit et l'état de ton âme ont de l'influence sur ton corps. Si tu vas bien dans ton esprit, laisse ça couler aussi dans ton corps. Si tu te sanctifies dans ton esprit, laisse ça aussi couler dans ton corps. Jouis de ça aussi physiquement. Et vous serez très étonné, c'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui, j'aurai le temps d'en parler un jour. Vous serez très étonné de vous rendre compte que certains caractères qui font un état d'esprit s'apprennent par un exercice physique. L'endurance, la persévérance, ces choses-là peuvent s'apprendre plus vite par un exercice physique que par une longue prédication. Comment être endurant et persévérant? Cette valeur peut entrer dans ta tête à travers un exercice physique que par de longues et de longues explications. On apprend aux enfants la continence juste en leur demandant de ne pas faire pipi au lit. Quand tu sens que tu veux faire pipi, lève-toi, va à la toilette, retiens-toi. C'est déjà l'un des premiers principes de la maîtrise de soi et de la continence. Maintenant, tu sais quoi faire de ton corps? J'en suis content. On a fait une semaine exceptionnelle. On a appris comment utiliser à bon escient les ressources que Dieu nous a données. L'argent, les ressources financières, le potentiel que nous avons, le temps, les relations et aujourd'hui le corps. Puis-je prier avec vous pour qu'on finisse cette semaine? Prions. Abba, tu nous as mis intendant de si grandes ressources. Comment peux-tu nous faire confiance? Tu nous connais. Mais si tu nous fais confiance, ce que tu sais, tu nous connais mieux que nous. Et par-dessus tout, tu nous as donné ton esprit pour qu'au-delà de nos potentiels, au-delà de nos capacités, de notre conscience, que nous recevons l'aide nécessaire pour vivre comme tu le veux. Esprit de Dieu, parle à nos cœurs. Donne-nous la bonne stratégie pour être des gestionnaires de toutes ces ressources que tu as mis entre nos mains. Bénis cette fin de semaine au nom précieux de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine, let's teach! Grandissons ensemble!
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.